Première partie. Mensonge et vérité à soi. Chapitre 1er. Se construire dans le mensonge.
Dès sa plus tendre enfance, l'individu acquiert une aptitude au mensonge dont les fonctions sont extrêmement diversifiées. Aider à se construire, se rassurer sur l'attachement des autres, mettre une distance entre soi et une réalité difficile.
Piéger dans les stéréotypes.
À titre de psychologue, je ne m'inquiéterai pas si une fille ne désire pas jouer avec une poupée, et je ne craindrai pas davantage pour la virilité future d'un jeune garçon qui jouerait à la poupée. En manipulant les objets, l'enfant se construit. L'important est de respecter sa spontanéité pour qu'il se découvre et se développe librement, sans censure ou jugement. Selon sa personnalité et ses besoins, un garçon ne jouera jamais avec une poupée alors qu'un autre en aura besoin, pour un temps, avant de s'en détourner. Un garçon au développement harmonieux se sentira très à l'aise à la fois de se tirailler avec ses copains et de s'asseoir calmement par terre pour discuter avec un groupe de filles. Dans la même veine, un homme adulte ayant intégré un modèle sexuel équilibré se plaira à la fois à faire du sport avec un groupe d'amis hommes et à s'occuper de son bébé pour changer sa couche ou lui donner le bain. Les différences entre hommes et femmes ne devraient donc pas s'exprimer par des comportements ou des attitudes interdites aux uns et aux autres en fonction de leur sexe, mais bien par des façons de faire différentes dans ces comportements et attitudes. Il serait temps de dépasser enfin les stéréotypes archaïques liés aux comportements et attitudes masculins et féminins, surtout lorsqu'ils oppriment les êtres et les empêchent de s'accepter tels qu'ils sont. Par exemple, l'un des stéréotypes archaïques masculins des plus communs est de considérer et de véhiculer que les garçons, les hommes, ne pleurent pas, sous-entendu parce que ce sont les filles qui pleurent et que pleurer est une faiblesse. Il est d'ailleurs surprenant de constater combien la phrase est largement véhiculée par certains parents dans leur pratique éducative et combien ces enfants, devenus adultes, restent prisonniers de cette injonction. Les spécialistes du corps humain le savent bien. La fabuleuse machine humaine est si bien faite qu'elle ne garde rien d'inutile. Ainsi, mis à part un conditionnement social forcené, on pourrait donc affirmer, a priori, que les hommes ont tout ce qu'il faut pour pleurer. Je serai clair sur ce point une fois pour toutes. Si l'on considère les pleurs comme l'expression d'une émotion intense vécue par un individu, il devient impossible de préciser qui, de la femme ou de l'homme, on peut extraire de cette définition. Pleurer n'est donc pas l'apanage des femmes, ni celui des faibles, mais la réponse adéquate de tout individu qui ressent. Sur le plan éducatif, bien des parents confient être démunis face aux mensonges de leur enfant et se questionnent quant aux pratiques à adopter. Ils vacillent entre rire, sévir ou feindre l'indifférence. Mais de quel mensonge parle-t-on au juste? Par exemple, est-ce du mensonge que l'enfant produit pour cacher une bêtise par peur de la réaction du parent ou du mensonge visant à faire passer un message à ses parents ou encore du mensonge pour tester l'amour de ses parents? Ces trois types de mensonges réfèrent à des réalités et à des dimensions psychologiques tout à fait différentes, et il me semble important d'apporter à ce propos certaines distinctions.
Cacher une bêtise par peur.
Commençons par le mensonge de l'enfant qui concerne le vaste champ de ses bêtises. Elles fleurissent au quotidien et se déclinent à l'infini dans le cours normal de la vie des petits. Casser un objet, ne pas se laver, oublier de remettre un devoir, faire mal à un ami, voler des bonbons, dire des gros mots, déchirer ou perdre un vêtement, etc. Comme parent, c'est peine perdue d'essayer de raisonner l'enfant de moins de 7 ans et de le confronter au réalisme des preuves à l'appui, car cela n'a aucun sens pour lui. Physiologiquement, son cortex préfrontal, encore en construction, ne lui permet pas tout à fait de distinguer le vrai du faux, la réalité de la fiction. Le parent qui comprend le développement de son enfant peut sortir de l'évidence du premier degré pour décoder ce que l'enfant essaie de dire autrement et maladroitement. Il y a toujours un message derrière le mensonge de l'enfant, une tentative pour lui de protéger une image de soi soudainement menacée, et le parent qui veut rester proche doit apprendre à le décoder. Malaise intérieur, peur du parent, faible estime de soi, surdramatisation des conséquences, etc. Il est important de se décentrer du mensonge lui-même et de ne pas remettre en question la parole de l'enfant, sinon les conséquences peuvent être dramatiques et durables sur la construction de sa personnalité.
Se dévoiler dans le mensonge.
Que le parent parte avec un a priori positif sur la parole de son enfant va d'emblée établir le climat de la relation et lui envoyer un signal puissant de confiance. L'essentiel ne consiste plus alors à traquer le mensonge, à croire ou à ne pas croire ce que dit l'enfant selon le critère limitatif de l'existence réelle et prouvée de ses actes ou de ses propos. Il s'agit plutôt de mettre de côté son scepticisme d'adulte pour apprendre à écouter ce que l'enfant dit, à sa façon, et particulièrement de manière détournée dans le mensonge. En psychologie, on sait que ce qui est vrai peut aussi n'être vrai que dans la tête de l'enfant, au-delà du concret et de l'observable, en fantasme. Le parent peut changer radicalement sa perspective sur le mensonge de son enfant s'il s'ouvre à considérer que, dans tous les cas, que le mensonge soit bénin ou grave, au point de mener à une accusation criminelle, il y a toujours une motivation profonde chez l'enfant. Si celui-ci ment pour cacher un malaise ou un mal-être, il ment surtout pour dire maladroitement sa détresse, sa panique, son besoin d'amour et de réassurance. Entre 2 à 7 ans, il faut absolument laisser l'enfant évoluer à volonté dans le monde imaginaire et fantasmatique qu'il érige, car il en a besoin pour se construire, sans dresser devant lui les frontières du réalisme. Bien sûr, les limites, punitions incluses, sont nécessaires dans certaines situations, mais simplement pour l'aider à intégrer ses routines de vie et assurer sa sécurité, jamais pour casser son imaginaire. Les parents le priveraient alors d'un outil de développement significatif. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, l'enfant acquiert une conscience grandissante de sa toute-puissance dans l'imaginaire et des limites du réel. L'acquisition de cette conscience est fondamentale pour lui, car il découvre du même coup la capacité relative de l'adulte de tout savoir.
Tester l'amour dans le mensonge.
À sa façon, l'enfant teste la qualité du lien établi avec l'adulte parent, pour fixer notamment son propre seuil de tolérance quant aux risques et aux bénéfices en jeu dans les mensonges adressés aux autres. L'enfant utilise le mensonge comme un moyen efficace de décevoir ses parents ou les personnes qu'il juge signifiantes. Le mensonge comme mesure observable de leur attachement. L'enfant acquiert progressivement cette conscience de plus en plus fine de juger ses propres comportements et leurs impacts sur les autres. Avec le mensonge, l'enfant se donne donc une nouvelle occasion d'ériger son propre système de valeurs et d'aiguiser son sens moral.
S'affranchir peu à peu du jugement des autres.
L'attention bienveillante des parents et leur disponibilité changent dramatiquement le cours de la vie de l'enfant. Cette attention et le cadre éducatif dans lequel elle se vit au quotidien participent à l'instauration durable de l'image de soi et de l'estime de soi de l'enfant. Lorsque l'affection des parents est modulée et adaptée en fonction des besoins particuliers de leur enfant, celui-ci érige sa sphère émotive sur des fondations solides. Foncièrement, l'enfant en pleine santé physique et mentale est résolument bon et bien intentionné. Il veut acquérir de nouvelles compétences, est curieux par nature, ne demande qu'à être stimulé, adore plaire à ses parents et veut désespérément être aimé. Dès ses premiers jours de vie, il est surtout mobilisé par la validation et la reconnaissance parentale dans une recherche permanente d'affection sous quelque forme que ce soit. Pour cela, il est naturellement prêt à se rapprocher des idéaux de ses parents, de leurs attentes et de leur système de valeurs. Adolescent ou jeune adulte, s'il a été élevé comme un être libre sur le plan psychologique, c'est-à-dire libre sur les plans intellectuels et émotifs, il remettra alors en question le système de valeurs parentales pour créer le sien propre, mais en aucun cas ne craindra-t-il de perdre l'amour et l'attachement de ses parents. Plus ses expériences interactionnelles sont riches, diversifiées et vécues dans un milieu familial et social dans lequel il est aimé et respecté, plus il accédera à une conscience solide et adhérera à des principes moraux qui feront de lui un être doté d'une intelligence sociale vive.
En résumé,
tous les enfants en manque d'amour resteront plus longtemps collés, physiquement ou psychologiquement, à leurs parents et partiront avec plus de difficultés à la conquête de leur autonomie. Particulièrement lorsque les parents sont toxiques, lorsqu'ils créent un lien d'attachement pathologique à l'enfant, celui-ci sera prêt à mentir et à se mentir pour maintenir à tout prix un lien qu'il sent déjà ténu. Tel est le cas des parents qui fusionnent dans un lien de forte proximité avec leur enfant, ou de ceux qui isolent et maintiennent toujours l'enfant à distance. Ces comportements extrêmes se rejoignent, que les parents soient fusionnels ou distants, L'enfant craindra toujours de perdre leur affection s'il ne se conforme pas à leurs attentes, s'il ne devient pas l'enfant idéal, s'il ne comble pas efficacement les désirs déclarés ou sous-entendus au-delà des mots. Selon la personnalité de l'enfant, ces deux profils de parents peuvent générer chez lui une angoisse qui évoluera, par exemple, en angoisse de séparation ou en angoisse d'abandon. L'enfant vivra sous la terreur permanente de se séparer ou d'être abandonné par ce parent aliénant. Toute son énergie relationnelle sera employée au maintien de ce lien et le recours au mensonge sera une stratégie efficace, malheureusement, pour ne pas perdre l'attachement parental. L'adulte bien construit n'est donc pas menteur. Bien sûr, l'adulte peut mentir socialement, par convention, par politesse, mais il n'y recourt jamais de façon systématique comme mode privilégié de communication. Pourtant, certains adultes n'ont jamais quitté tout à fait le mensonge et en cela sont restés coincés dans l'immaturité. Ils se mentent au quotidien et mentent à leur famille, à leurs amis et au travail pour susciter une émotion dont ils tirent avantage et acquièrent, avec les années, des talents inégalés de manipulation et de contrôle. Hyper-contrôle dans leur rapport à l'autre et hyper-contrôle de leurs propres émotions. Ils adorent produire un effet chez l'autre et sentir tout à coup l'ivresse du pouvoir. Ils savent les histoires qui bouleversent, les réflexions qui percutent, les expressions faciales à adopter, les moments clés des pauses et des silences, l'impact du rythme modulé d'un discours, le mot qui fait sourire, celui qui fait éclater de rire, l'instant où leur intelligence séduit, celui où leur propos va droit au cœur. L'adulte menteur est un séducteur invétéré et un manipulateur efficace qui cherche à calmer un peu la tristesse et la douleur de ne pas s'aimer du tout. Sa stratégie est finement élaborée. Puisqu'il est sans valeur, il doit s'inventer un personnage qui en a. Et cette projection de ce faux lui-même, cette doublure, lui garantira le regard positif de son partenaire amoureux et de son entourage.